Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Alter Midi en Escapade, l'émission d'info régionale de la presse citoyenne indépendante, issue d'un partenariat avec votre radio locale préférée et le bimédia citoyen Alter Midi, inscrit dans un écosystème régional, où les acteurs de différents secteurs coopèrent pour valoriser l'info locale. Alter Midi est un média coopératif qui vous permet de contribuer à la valorisation de l'info. Vous pouvez nous faire parvenir vos contributions par mail à redaction@altermidi.org. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d'infoaltermidi.org ou en vous procurant Alter Midi Mag, car on fait aussi du papier dans les kiosques d'Occitanie et de PACA. Et si le renouveau de l'info régionale passait par l'extension de son périmètre, Alter Midi s'intéresse aux liens et relations entre nos régions, la Méditerranée et l'Europe. Aujourd'hui, on a la prise de Sion Siam qui est avec nous jusqu'à pour une petite heure. Que savons-nous de la Slovaquie? Pas grand-chose, hein, si ce n'est que c'est un pays de 5,5 millions d'habitants et situé au cœur de l'Europe occidentale, et qu'il est membre de l'Union européenne depuis 2004. Pour en savoir plus, nous irons dans la première partie de cette émission à la rencontre d'Arpad Soltes, célèbre journaliste d'investigation slovaque et auteur de romans noirs. Nous l'avons croisé cet été dans le cadre du Festival international du roman noir de Frontignan. Dans la rubrique Média, nous reviendrons sur le combat unitaire des radios locales dans le viseur du gouvernement qui prévoyait une coupe budgétaire aveugle de 30% de leur financement public. La dernière partie de l'émission sera consacrée au dossier d'Alter Midi Mag intitulé « Travail-vacances, deux notions à réinventer » avec un entretien avec la philosophe du travail Céline Marty qui défend l'idée que notre conception actuelle du travail est obsolète. Et on dédie cette émission à un grand monsieur, Quincy Jones, qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 91 ans. Une étoile filante qui est passée de Ella Fitzgerald à Michael Jackson. Une étoile filante qui s'est éteinte, dont la lumière reste dans nos mémoires. Si vous ne faites pas confiance à un journaliste d'investigation dans un pays corrompu, à qui allez-vous faire confiance? Arpad Soltes évoque la pratique du journalisme en Slovaquie. Il était l'ami du journaliste Jan Kuciak, assassiné par la mafia avec sa compagne en 2018. Arpad Soltes est un enfant de l'ère post-soviétique. Son parcours singulier recoupe l'histoire de son pays. Il débute ses enquêtes à Bratislava, la capitale, dans le milieu des années 90. Âge d'or pour la presse slovaque qui va assez vite passer dans les mains des oligarques. On l'écoute retracer ses premiers pas dans le journalisme d'investigation, un métier à haut risque en Slovaquie.
En 1995, en Slovaquie, le contexte politique il s'ouvre à la presse. Après, j'imagine, un passé soviétique où le journalisme était plutôt un journalisme de propagande. Comment ça vivait le milieu des médias à cette époque en Slovaquie?
It was especially complicated at that time as the independent Czechoslovakia was created in 1993, and the guy who ruled the country was an authoritarian figure who tried to install a similar regime like we know in Belarus. His name was Vladimir Mečiar, and he really tried to keep the country in the Russian influence sphere.
C'était une situation particulière parce que la Slovaquie existait en tant que pays que seulement depuis 1993, donc deux ans avant, et à l'époque, elle était sous le contrôle d'une figure autoritaire qui voulait en faire ce qu'est devenu l'actuelle Biélorussie.
And he tried to silence the newly created independent media. His oligarchs, he created a new shift of oligarchs, and they were trying to buying all the media.
Tout de suite, lui, sa préoccupation, c'était d'étouffer les nouveaux médias indépendants qui venaient de se créer et de créer autour de lui une bande d'oligarques à qui il pouvait confier justement ces médias, qui allaient acheter ces médias et les contrôler pour lui.
And the first paper I started to work for, they bought it in 2 years after I started, so I moved on to another daily paper which was independent. In half a year they bought it too, and then we funded a new daily paper.
La situation était compliquée parce que le premier journal pour qui j'ai travaillé, au bout de 2 ans, il a fermé. Ensuite, j'ai travaillé pour un autre journal qui a fermé au bout d'un an et demi. Et là, moi, j'ai ensuite aidé à créer un nouveau journal.
And there was the next general election in Slovakia was in 1998, and it was a real fight. We knew if the guy gets re-elected, Slovakia will never join NATO or the European Union, so we will stay in the East. We wanted to be part of the West at that time.
Et c'était un moment crucial parce que les élections qui arrivaient à ce moment-là, en 1998, on savait que si cette figure autoritaire était réélue, elle nous pousserait vers l'Est et qu'on ne pourrait pas rejoindre l'OTAN, et nous, on voulait à tout prix pouvoir intégrer l'Ouest.
Slovakia at the time was really very far away from democracy. It was a mafia state, but the state ran the mafias actually, especially the secret service.
C'était vraiment très très loin d'être une démocratie. C'était un état mafieux. C'était l'état qui contrôlait la mafia, notamment en s'appuyant sur ses services de renseignement.
In Slovakia, we don't have a presidential system like here in France. We are a parliamentary democracy, so the most powerful person is the prime minister. And he got into a fight with the president, and the secret service abducted the president's son. They kidnapped him.
Nous, notre système, il est, contrairement à la France, davantage parlementaire que présidentiel. Et le Premier ministre à l'époque, donc il avait plus de pouvoir et il n'avait pas le président. Et du coup, les services secrets ont kidnappé carrément le fils du président.
Later, they killed, they burned alive in his car, the key witness to this abduction.
Et après, ils ont tué, en fait, ils ont même brûlé vif le témoin principal de ce kidnapping.
So it was that kind of times, and those are times where you are learning very fast, and it's a golden era for every journalist, of course.
Voilà à quoi ressemblaient ces époques-là. Et ben, en tant que journaliste, on apprenait beaucoup, on apprenait vite, et c'était, on peut dire d'une certaine manière, un certain âge d'or pour les journalistes.
As the oligarchs both already 2 papers I worked for, I took it a little bit personally at that time, so I started to write about these oligarchs, so I covered mostly economics.
En fait, je dis, c'est les oligarques, les journaux n'avaient pas exactement fermé, c'est des oligarques qui les avaient achetés, qui les avaient donc transformés. Et moi, ça m'a intéressé donc de commencer à m'orienter vers l'économie, parce que j'ai compris le rôle crucial que jouaient ces oligarques pour contrôler les destinées du pays.
And I never wanted to investigate journalism. It wasn't my plan. And then I was ticked off that there is a company. It was a meat processing factory, which was privatized. The money was funneled out of the company. It bankrupted and. The whole property belongs to the banks. They take huge loans. It was the usual mechanism. You privatize the company. You took horrible loans from the banks. Then you funneled out the money, and the company bankrupted. And somebody told me they are smuggling out the technology, the machines from the factory in the night. That they sold it to some Hungarian company.
Au départ, moi, je ne voulais pas faire de journalisme d'investigation, ça ne m'intéressait pas. Puis je suis tombé sur cette affaire, ce cas d'une société qui manufacturait des produits de la viande à vendre en supermarché. Et il se trouve que c'était une compagnie complètement bidon. En fait, elle avait été créée avec des emprunts qui ont ensuite n'ont pas été remboursés. Et les oligarques se servaient de ça pour en fait prendre l'argent de ses emprunts pour s'enrichir, et ensuite ils mettaient l'entreprise en faillite et tout cet argent allait dans leurs activités criminelles.
They took my photographer and we parked the whole night in front of the meat processing factory waiting for the trucks with the equipment. Nothing happened, so I wrote it off as a bad tip and returned back in the morning to the newsroom and wrote about something completely different.
Moi, on m'avait donné le tuyau, on m'avait dit elle est louche cette entreprise. Donc avec un collègue, on s'était mis devant effectivement cette usine en planque pour un peu voir ce qui s'y passait vraiment, et on n'a rien remarqué de spécial. Donc je me suis dit bon, dans ce qu'on nous raconte sur cette compagnie, ce tuyau c'est en fait peut-être bidon, donc j'étais sur le point de laisser tomber.
Then in the evening I had a family meeting with my mother, my girlfriend, my cousins, my uncle. And I left for a minute to the rest room, the family dinner. It was a pub around the corner where I lived. And a guy came in, and without a word, he beat me to pulp. I had several broken ribs, my whole face was swollen.
Donc, moi, j'ai pensé que c'était un mauvais tuyau et je m'en suis pas soucié. Et puis le soir, je vais dans un bar où je retrouve ma famille, je retrouve ma copine, ma mère, des cousins. Et puis, je m'absente à un moment donné de la table pour aller aux toilettes. Et là, il y a un type qui débarque dans les toilettes et qui me réduit en bouillie, qui me casse toutes les côtes, plusieurs côtes, qui me réduit la face en bouillie. Et j'en ai encore, voilà, des cicatrices.
I had a lot of enemies, of course, as a journalist, so I didn't, it was obviously a professional hit, but I just didn't know why, who sent the message. And after a few weeks, about after 3 weeks, when I was again able to go to work, the first person who contacted me was from the Secret Service.
Donc je ne suis pas tout de suite associé. C'est ce qui m'est arrivé à l'histoire de cette usine, parce que j'avais beaucoup d'ennemis en tant que journaliste. Je savais que c'était un professionnel, quelqu'un qui avait été payé, qui m'avait tabassé. Et au bout de 3 semaines, je me suis un peu remis, que j'ai pu retourner au travail. Là, j'ai été contacté par les services secrets.
And he asked me if I'm really so stupid that I'm parking in front of the meat processing factory the whole night and I don't know what am I doing there.
Et il m'a dit mais vous devez vraiment être idiot pour vous garer votre voiture en face de cette usine pendant toute une nuit sans vous attendre à des conséquences.
And he explained me it wasn't a regular privatized company. It was practically a shell company of the Secret Service, and they paid the mafia for the wet work, for the professional assassinations through this company.
En fait, ce qui est terrible, c'est que cette société, c'était même pas une, c'était une fausse société qui servait l'argent qui passait à travers cette société, permettait justement aux services secrets de rémunérer la mafia pour des sales boulots.
So the loans from the two state-owned banks, which they took, they were never meant to be paid back. It was the payment for the work.
Donc en fait, l'argent que l'État avait prêté à cette société, ou que les banques contrôlées par plus ou moins par l'État avaient payé à cette société, ils ne s'attendaient jamais à ce qu'il soit remboursé. C'était en fait pour payer la mafia.
Vous disiez tout à l'heure, nous on voulait aller vers l'Occident, vers l'Est. Quand vous dites nous, c'est les journalistes ou c'est le peuple slovaque qui avait cette espérance?
At that time, most of the society, we had a referendum about it, and it was the single one successful referendum in Slovakia, and we decided to join the NATO and the EU.
Oui, à l'époque, c'était la grande majorité de la société. On a eu un référendum, et ça a été le référendum qui a rencontré le plus de succès au niveau du vote pour que justement la Slovaquie rejoigne l'OTAN.
But if I may, I just wanted to get to the point of the former long story. So,
je voulais juste revenir sur l'histoire, la longue histoire qu'il a racontée avant pour en arriver à sa conclusion, juste pour qu'il la raconte.
there were a lot of people inside the system who wanted to speak to journalists, but they didn't know whom to trust. And I became the most trustworthy journalist in the country. So I was forced to become an investigative journalist after the attack.
Ce qu'il faut dire, c'est que il y avait beaucoup de gens qui voulaient parler, qui voulaient se confier à des journalistes. Et l'attaque m'a identifié un peu, a fait de moi un peu le journaliste d'investigation à qui on pouvait se confier. C'est pour ça que je suis devenu en fait journaliste d'investigation, ce que je n'avais pas prévu au départ.
Yeah. Neprodukt. Ripe Molodoy. Čistý chov Michailov. Roots. 2004. Po 20 letech. Furt se ti nezdá. Už mě fakt stačily ty vyjebaný řeči o tom, kdo jsem. Nic z toho, co mám teď, mě tu nepřistalo pod nosem. Byl dole dneska poset a díky tomu, co jsem. Ten rap už je za to, že jsem se vyhrabal z těch trosek. Zdravím ty svoje, pro ně moje hudba platná. Nikdy nebude zlata platina, no ani trapná. Pokud pomůže aspoň jednomu, tak není tratná. Ta tvoje stokrát použita dávno není vratná. Kořeny mám vody, nutno zvedám to furt ze dna. Dám 1000 kilometrů, víkend neslezu ze sedla. Zdá se ti, že už nejsem underground, hudba mě vedla. Furt stoka, no ne kedra, už produkt, no ne žebrak.
Zasadím.
Že si to někde už slyšel a možná pro tebe kliše, no já jsem z cviku nevyšel.
Zasadím.
Že znova to stejný píšem a každej zatím si tušel z dola, no kam jsem až došel.
Zasadím.
Že jsem z těch nových a trapných, často kolem málo dobrých a vzácných v tom už.
Zasadím.
To teda nezdá se mi, v tom beatu nespal se mi, pak raděj nestav se mi.
Robit rap nezdávno nevadí, keď hrása a žebrak. Po velký rozdíl čísla, hlavně mať sa a predať. Vzpomienky fakt jebať, je to inde, nebavme sa. Kopírka ťa preda, aj za preda je jak vexlák. Recitačne sa skončí tvoj sen tak, keď hen tak. Hudba mala slúžiť ako liek, nejak chémia. Jak by sa mala robiť, nikomu nevnúcujem ja. Len mám sen aj nohami, neopúšťam zemňák. Korene mám zo spodu, kde bola iba pôda. Za mnou 100 000 klonov pravých vlkov iba z opách. Tá sami, že to v underground je furt slušná chopa. Reč je moja nota, mladá krv je moja rota.
Zasadím.
Že si to niekde už slyšel a možná pro tebe kliše, no já jsem z cviku nevyšel.
Zasadím.
Že znova to stejný píšem a každej zatím si tušel z dola, no kam jsem až došel.
Zasadím.
Že jsem z těch nových a trapných, často kolem málo dobrých a vzácných v tom už.
Zasadím.
To teda nezdá se mi, v tom beatu nespal se mi, pak raděj nestav se mi.
Zasadím.
Že si to někde už slyšel a možná pro tebe kliše, no já jsem z cviku nevyšel.
Zasadím.
Že znova to stejný píšem a každej zatím si tušel z dola, no kam jsem až došel.
Zasadím.
Že jsem z těch nových a trapných, často kolem málo dobrých a vzácných v tom už.
Zasadím.
To teda nezdá se mi, v tom beatu nespal se mi, pak raděj nestav se mi.
Le groupe de rap slovaque City Slow, vous êtes sur Radio Escapade avec le média indépendant Intermidi et le journaliste et auteur slovaque Apas Soltes qui porte un regard assez peu optimiste sur son pays. Apas, que nous avons rencontré au Film de Frontignan, est très critique sur la gouvernance de Robert Fico qui a repris les rênes du pouvoir en octobre 2023. Le chef du gouvernement soupçonné de corruption a été victime d'une tentative d'assassinat le 15 mai dernier et s'est remis en selle après avoir été touché par 4 balles. L'écrivain ne s'en prend pas qu'aux hommes politiques slovaques, il dénonce également la tendance consumériste de ses compatriotes. Arpad Soltes souligne l'ambigu sentiment d'appartenance des Slovaques à la démocratie libérale de l'Union européenne. Un symptôme partagé dans l'Est de l'Europe. Hier, en Moldavie, la victoire de la candidate pro-européenne Mene Sandu a été réélue dans un contexte d'ingérence russe. Contexte qui touche un peu toute l'Europe, mais aussi les États-Unis en ce moment. Soltes, il évoque la tentation d'un retour à une forme de pouvoir autoritaire proche de la mouvance hongroise de Viktor Orban. On va écouter la deuxième partie de cet entretien.
At that time, the Slovaks were in the East and they thought they want democracy and the Western way of life, but actually they wanted German cars, Japan electronics, Apple, so the consumer of the West, not the values.
À l'époque, les Slovaques croyaient qu'ils voulaient la démocratie à l'occidentale, ils croyaient qu'ils voulaient ce genre d'histoire de liberté, mais en réalité, ce qu'ils voulaient, c'est les bagnoles allemandes, c'est l'électronique japonaise, c'était la société de consommation qui les intéressait.
And now they are formally part of the West, and they realized they don't belong here, that they want to be back in the East, in Russia.
Maintenant que formellement ils font partie de l'Ouest, ils se rendent compte qu'ils n'y appartiennent pas vraiment, n'ont pas le sentiment d'y appartenir, ils ont plutôt envie de revenir vers l'Ouest.
So the rise of these authoritarian regimes in Hungary and in Slovakia, it's just that they're just turning back to their natural norm.
En fait, ce qu'on voit comme la poussée autoritaire en Slovaquie, en Hongrie, c'est plutôt un retour vers ce qui leur est naturel.
Donc ce qui leur est naturel, ce n'est pas forcément ce que propose l'Union européenne avec son système de démocratie, qui est tout à fait critiquable aussi. Ce serait intéressant que vous nous donniez votre point de vue sur le regard que vous portez sur les médias ici, en Occident. Hein, ce n'est pas tout à fait le même système, mais on a aussi des gens qui sont des chefs d'entreprise, qui gèrent la majorité des médias, évidemment avec moins de violence. Mais ce modèle de la démocratie, d'après ce que vous dites, n'est pas ce que recherche le peuple slovaque aujourd'hui.
Of course, these countries, they have no place in the European Union. There's just no mechanism to keep them out.
Non, ces pays n'ont pas leur place en fait dans l'Union européenne, mais il n'y a pas de mécanisme non plus pour les en écarter.
The biggest mistake was to make all those deals with Viktor Orban in Hungary. It started there. Instead of getting him in line, and he just poisoned the well. Now he is really the role model for every wannabe pocket Putin in Eastern Europe.
L'erreur principale qui a été faite par l'Union européenne, c'était pas de remettre, recadrer Orban, Viktor Orban, le plus rapidement possible. Maintenant, il a empoisonné la situation et il fait figure de modèle pour tout un tas de gens qui voudraient s'inspirer de ce modèle de dictature.
We had this stupid idea about end of history in the 90s, and it was just the European Union took in too soon those countries without being sure they are able to adopt the values of the West.
C'est cette idée stupide qu'il y avait à la fin des années 90 de la fin de l'histoire, et en réalité l'Union européenne a pris ces pays beaucoup trop tôt, ils n'étaient pas du tout prêts pour être intégrés.
Après bon, vous critiquez l'extension de l'Union européenne aux pays de l'Est. C'est vrai que du point de vue même de l'organisation de l'Union européenne, ça posait des problématiques, et on l'a vu encore, comme vous venez de le dire, avec Orban en Hongrie. Mais est-ce qu'il y a un moment où on est prêt, quand on est dans un système semi-totalitaire comme ça peut l'être dans les pays de post-soviétiques, et qu'est-ce qui serait advenu si ces pays n'étaient pas rentrés dans l'Union européenne en 2004?
I really don't like this what if questions. Nobody knows. Life in those countries would be worse for sure. And maybe the process of this race of the far right across Europe, and it's not even the far right. Now we have the term for that. It's illiberal populism. Will be slower, maybe, but I don't know.
C'est difficile à dire, je me méfie de ces questions. Moi je pense qu'effectivement, si ils n'avaient pas rejoint, peut-être que leur vie, la vie des gens là-bas, serait pire qu'elle ne l'est maintenant. Mais quelles seraient les conséquences? Est-ce qu'on se verrait aussi une telle montée de ce qu'on appelle le populisme libéral dans les autres pays d'Europe? Est-ce qu'il aurait pu se monter ou non? Ça, je ne sais pas.
they call it, of course, illiberal democracy, but it's an oxymoron, it's nonsense.
Oui, bien sûr, démocratie libérale, c'est un oxymoron, ça n'a aucun sens, ce mot.
Those are authoritarian regimes.
Ce sont des régimes autoritaires.
And people in those countries like their authoritarian regimes.
Et la vérité, c'est que les gens dans ces pays, ben, ils apprécient leur régime autoritaire.
Alors, le Premier ministre Robert Fico, qui a été réélu Premier ministre après avoir été, avoir participé longuement à cette histoire auparavant, qui a été victime d'une tentative d'assassinat il y a quelques semaines, il était plutôt pour rejoindre la ligne Orban, arrêter le soutien à l'Ukraine. Est-ce qu'il y a une autre solution? Parce que vous dites, bon, les Slovaques, finalement, c'est ce qu'ils veulent. Est-ce que l'exemple, par exemple, de la Pologne est une option? Parce que malgré tout, la Slovaquie fait partie de l'OTAN aujourd'hui. Elle est membre de l'Union européenne et de la communauté de l'euro.
Poland is completely different. First thing, in Poland it was never about corruption, it was really about very conservative ideology.
La Pologne, c'est une situation complètement différente. D'abord, il faut savoir que la Pologne, c'était pas un problème de corruption, c'était un problème d'idéologie conservatrice avant tout.
Poland is strongly polarized, and it's really like half-half, but both sides of the barricade, they can't agree on anything. Well, not even if this weather is nice or bad, but they agree that Russia is the enemy.
La Pologne, elle est très polarisée, très clivée. Il y a deux côtés et ils sont d'accord sur rien. Ils peuvent même pas se mettre d'accord sur s'il fait beau ou pas beau aujourd'hui dans le ciel. En revanche, la chose sur laquelle ils se rejoignent, c'est leur opposition à Poutine et à la menace russe.
That's not the case in Slovakia or in Hungary.
C'est pas le cas en Slovaquie ni en Hongrie.
And Robert Fico has a history. The Slovak prime minister. He was a young communist in 1989, and the regime collapsed around him. But he saw his career as a professional communist.
Oui, puis l'histoire de Fico est un peu particulière. En 1999, c'était un jeune communiste et il a vu que le communisme s'effondrait autour de lui, alors que lui, il avait prévu sa carrière en tant que communiste professionnel.
But he was able to adapt to the change, and he was the most euro-optimistic politician in Slovakia. As he knew, the money is coming from Brussels, not from the Kremlin.
Mais il a pu s'adapter parce que il était le politicien le plus euro-optimiste, on va dire, de la Slovaquie, parce qu'il n'était pas bête, il savait que l'argent, il n'allait pas venir du Kremlin et il allait venir de Bruxelles.
Then, in 2018, a journalist Jan Kuciak with his fiancé were killed in their own home. It was a professional hit, an assassination, which had nothing to do with politics. But in the aftermath, a lot of dirt came to the surface.
Mais en 2018, il y a eu un autre événement majeur, l'assassinat d'un journaliste, Yann, une autre famille. Et là, ça a été un moment difficile parce que ça a permis de faire remonter à la surface plein d'informations compromettantes sur le pouvoir.
Just for instance, the last article which Jan has written at the moment he was killed, and it was published post-mortem in all the big papers in the world, like New York Times and Guardian, and I think Le Figaro too, was about the personal assistant of Robert Fico, and she was the former mistress of a member of 'Ndrangheta, who was settled in the eastern Slovakia, and he did agricultural subsidy scams by hundreds of millions of euros per year.
Et puis là, il y a un scandale qui a éclaté parce que après sa mort, beaucoup de journaux internationaux ont publié compris le Guardian, New York Times, peut-être le Figaro, ont publié le dernier article que ce journaliste Yann avait écrit, où Fico était mis en cause parce qu'il il avait des liens très proches avec la maîtresse d'un des pontes de la mafia d'Angheta installée en Slovaquie.
There were very massive public protests after that. Every week, tens of thousands of people in the street. It was bigger than in 1989, actually. And Fico was forced to quit.
Et ça a donné lieu à des manifestations monstres, beaucoup plus grandes que celles de 1989 même, des dizaines de milliers de personnes dans les rues chaque semaine, et ça a forcé Fico à démissionner.
À ce moment-là, la société civile slovaque réagit de façon très, très positive vis-à-vis du système de liberté d'expression et elle parvient à faire tomber le gouvernement quand même. On va parler un petit peu aussi de vos livres, de ce passage entre le travail de journaliste et celui d'écrivain. Vous disiez, le journalisme, ce sont des faits et le fait d'écrire permet d'exprimer la vérité. Vous ne pensez pas que le journaliste peut être aussi une expression de la vérité? Et en quoi le fait de travailler sur un livre permet une libération par rapport à ce qu'on a envie vraiment de dire?
It may be in the language, but I consider truth more like a philosophical concept. Journalism is not about truth. Journalism is about facts.
C'est peut-être une question de l'utilisation de la langue. En tout cas, pour moi, la vérité, c'est un concept philosophique et le journalisme, c'est pas ça ne vise pas la vérité, ça vise les faits, c'est-à-dire les faits.
And facts are boring. Investigative journalism is horribly boring, really. It's about numbers, papers, proofs.
Et puis les faits sont ennuyeux. C'est vraiment le métier de journaliste d'investigation, c'est horrible. Il s'agit juste de chiffres, de remplir des papiers.
You must not work with emotions as a journalist. It's forbidden.
En tant que journaliste, il n'y a pas de place pour les émotions. C'est son même proscrit.
To work as a journalist with emotions is bad journalism.
Laissez les émotions imprégner votre travail quand vous êtes journaliste, c'est du mauvais travail de journaliste.
Est-ce que vous avez
as a writer, you are allowed to tell the truth and to bring in the emotion.
En tant qu'écrivain, oui, vous avez le droit de dire la vérité, vous avez le droit de laisser entrer les émotions.
Est-ce que vous avez plus de lecteurs en tant qu'auteur ou en tant que journaliste, et est-ce que ces lecteurs sont différents?
I really don't know. I have really a lot of readers as a writer. I have for sure more viewers for my political videocast. I don't know how much reader I have. I'm writing monthly for the leading Slovak newspaper, a wall page on politics and society, but I just don't know how many readers. It's but I think it's probably the same bubble always.
J'en sais rien en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lisent mes livres. Je sais que je fais aussi un vidéocast tous les mois qui a beaucoup de vues, et je fais une chronique, une page entière tous les mois pour un des journaux principaux de Slovaquie, mais je ne sais pas les chiffres exactement. Ce qui est sûr, je pense que c'est peut-être les mêmes personnes par contre.
But what I can tell for sure, I have a lot more haters than fans.
Une chose dont je suis sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui me détestent que de gens qui sont fans.
But that's my journalistic ethos. As a journalist, your job is to tell people what they need to know, even if they don't want to know it, and you don't make a lot of friends with that.
Mais c'est mon éthique de journaliste. En tant que journaliste, mon boulot, c'est de dire aux gens les choses qu'ils ont besoin de savoir plutôt que ce qu'ils ont envie de savoir. Et tant pis si on se fait plus d'ennemis que d'amis.
je crois que vous êtes exilé à Prague. Ce que vous disiez, que vous travaillez toujours pour des journaux slovaques, est-ce à dire qu'il y a encore une presse indépendante en Slovaquie? Et est-ce que vous êtes menacé si vous vivez en Slovaquie aujourd'hui?
I was at risk for years. I was getting death threats daily. I was carrying a gun for some time. But that was not the reason why I left the country.
J'ai passé des années à être menacé. Je recevais tous les jours des menaces de mort. Pendant un moment, je portais une arme. Mais ce n'est pas la raison qui m'a fait quitter le pays.
And there is still independent press. They will leave alone the papers. They just don't have enough readers to make a change, a political change. But they will silence the TV stations, the tabloids. That's the decisive media in any country.
Oui, il y a encore une presse indépendante parce que la presse indépendante, elle a pas beaucoup de lecteurs, donc ils s'en fichent le pouvoir. Ils sont plus intéressés. Ce qui les intéresse plus, c'est de contrôler la télévision ou certains titres de presse particuliers, les tabloïds.
And I did not leave the country for security or safety concerns. I'm able to defend myself in a physical sense, but politics in every country is a product of society. Robert Fico was elected in a free and fair election. I don't want to live among those people who are able to re-elect him after all happened in the country.
Je suis pas parti pour des raisons de sécurité. Je suis capable de me défendre, je pense. Je suis parti parce que les gens qui ont élu Robert Fico, il a été élu dans des élections qui étaient libres, qui étaient justes, pas de triche. Et moi, je veux pas vivre parmi des gens qui sont capables de réélire un type qui avait fait toutes les choses que lui avait faites.
Vous sentez ce petit vent d'Est qui vient de l'Europe. Vous écoutez Alter Midi en escapade, l'info indépendante sur les ondes de Radio Escapade. On vient d'entendre le journaliste Arpad Soltes nous parler de la Slovaquie d'aujourd'hui. Il est aussi un écrivain de romans noirs. Son œuvre documente l'évolution et les ramifications du crime organisé dans son pays. C'est notamment le cas dans son dernier roman, Colère, sorti en mars dernier aux éditions Agulo. L'ouvrage illustre le retour du « hard-boiled », entre guillemets « dur à cuire », dans le roman noir. Il nous replonge dans la Slovaquie des années 90, névrosée par la criminalité. Miko, le héros, est un employé de police à Kolsis, la deuxième ville du pays. Entre la mafia, les services de renseignement slovaques et ses collègues corrompus, il évolue dans un environnement complètement vérolé par la corruption. Passablement déprimé, il parvient difficilement à faire son boulot de flic en s'adaptant au système jusqu'au jour où arrive Miki, un jeune collègue épris de justice qui va le payer de sa vie. Sa mort fait basculer Miko dans une puissante colère. On découvre alors que Miko sait jouer sans respecter les règles à ce jeu. Il est même meilleur que la mafia. À lire également chez cet auteur et chez cet éditeur Le Bal des Porcs, un roman clé représentant les protagonistes de l'affaire Jan Kuciak, un journaliste slovaque assassiné avec sa compagne en février 2018, que l'auteur journaliste comptait parmi ses amis. La noirceur des romans d'Arpad Soltes puise dans l'encre rouge du vécu. Ce n'est pas un auteur de romans noirs pour rien. On quitte Arpad Soltes en se disant que même si on est petit, nous pouvons relever la tête, crier pour obtenir des droits à notre destin historique. Vous n'êtes pas sans ignorer que le débat sur le budget bat son plein dans notre pays. Dont ceux à qui nous avons confié nos droits ont dépensé un sacré paquet de milliards en trop. En saura-t-on plus sur ce dérapage incontrôlé après l'enquête parlementaire? On peut l'espérer. Toujours est-il que la rigueur est le terrible mot qui s'impose depuis la rentrée, juste après la fierté des Jeux Olympiques. Parmi les coupes budgétaires, le projet de loi de finances prévoyait une réduction de 30% du financement public des radios associatives. Ah ! On allait presque mourir. Une coupe budgétaire aveugle mettant en péril les emplois, les structures des radios locales et indépendantes, mais aussi la vitalité démocratique et culturelle de notre pays. Notamment en région, où elles produisent des ressources pour la vie pratique des gens sur leur territoire, dans les domaines comme la santé, l'éducation, le développement local ou la culture, et permettent aux lecteurs qui font la vie locale de s'exprimer. Gravement menacées, les radios sont montées au créneau. Rapidement, dans tout le pays, des assemblées régionales des radios se sont mobilisées, rejointes par la Confédération nationale des radios associatives et le Syndicat national des radios libres, épaulées par les élus locaux. Le 29 octobre 2024, la semaine dernière, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, la députée Bellamy a souligné l'opposition unanime et transpartisane de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à cette coupe budgétaire. La Commission a également adopté un amendement rectificatif augmentant de 12 millions d'euros les crédits prévus pour le FSER 2025, témoignant d'un soutien collectif en faveur de l'expression radiophonique associative. En réponse, Laurent Saint-Martin, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics, a affirmé l'importance du FSR pour l'existence des radios associatives locales et annoncé que le gouvernement s'engageait à maintenir les crédits du FSR au niveau de ceux alloués en 2024, répondant ainsi aux inquiétudes exprimées. Dans un communiqué publié le 29 octobre, la CNRA et le SNRL sollicitent un rendez-vous avec le gouvernement et les services du ministère de la Culture afin d'échanger sur les modalités de cette remise à niveau des crédits, essentiellement pour le développement et la préservation de la diversité radiophonique en France, essentielle. Elle reste cependant mobilisée et remercie les radios partout sur le territoire pour leur formidable mobilisation. Merci aussi à Radio Escapade qui s'est battue.
Non, je ne veux plus jamais travailler. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi!
40%. 40%, il y avait un break dans la banane. 40% des Français ne partent pas en vacances selon l'Observatoire des inégalités. Jamais les écarts de taux de départ n'ont été aussi forts entre une France modeste, rurale ou périphérique et une France urbaine de centre-ville, de cadres, de grandes entreprises et de la fonction publique. Le poids croissant de la financiarisation de l'économie qui accentue les inégalités de salaire et la concentration du capital n'y est pas étranger. C'est ce qui ressort en creux du dossier que nous consacrons dans le dernier numéro d'Intermédi Mag à la relation travail-vacances. Une occasion d'ausculter la valeur travail dont on nous rabat les oreilles à partir de témoignages différents, ceux de la jeunesse, de penseurs et de philosophes, de poètes, de professionnels de l'insertion et de travailleurs étrangers exploités. Les règles du droit du travail sont intimement liées aux droits humains et à la démocratie. Ce dossier pose aussi quelques réflexions sur la notion de bénévolat, de salaire, de droit aux vacances et de la puissante aspiration à bien vivre son loisir au risque de détourner le peuple d'un travail qui n'aurait plus de sens. On écoute un extrait sonore avec la philosophe du travail Céline Marty qui répond au journaliste d'Altermidi Icar Costa. Dans un contexte de crise écologique et de crise capitalisme, Céline Marty proclame que nos corps ne pourront supporter une augmentation du temps de travail. Selon elle, notre conception actuelle du travail est obsolète et cela implique de sortir du productivisme.
On ne peut pas présupposer que la production d'un travailleur né dans les années 70 et qui n'aura connu que quelques canicules dans sa vie et donc quelques étés où son corps n'aura pas pu récupérer de la même façon seront les mêmes capacités productives que quelqu'un qui est né en 2020 et qui connaîtra des étés de canicule toute sa vie. Nous n'aurons pas les mêmes capacités productives.
Donc bonjour Céline Marty, vous êtes philosophe, vous êtes doctorante en philosophie du travail. Vous êtes en particulier, vous avez travaillé sur l'œuvre d'André Gortz et vous avez écrit Travailler moins pour vivre mieux, donc un guide pour une philosophie antiproductiviste aux éditions du Node. Donc ce livre traite en fait de la question du travail. Et la première chose que j'aimerais vous demander, pour tous ces gens qui considèrent que le travail va de soi, qu'il est évident que le monde doit travailler, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi c'est malgré tout important de questionner la question du travail?
Alors on pourrait dire que pourquoi c'est important de questionner ça, c'est parce que les formes que prennent aujourd'hui les différents types de travail, d'emploi, etc., n'ont pas toujours existé. Et donc il y a toute une variabilité, une contingence de la façon dont on organise socialement le travail. On organise socialement le travail, c'est-à-dire aussi bien la production, ce qu'on choisit de produire, comment on le produit, dans quelles conditions, qui effectue certaines tâches. Et quand on reprend l'histoire des sociétés et notamment du capitalisme, on voit bien qu'il n'y a aucun caractère naturel à la façon dont on travaille aujourd'hui, au type d'emploi qui existe. Et ça, on s'en rend bien compte quand on voit les emplois qui naissent avec les métiers digitaux, par exemple, qui n'existaient pas il y a un siècle, etc., ou encore des métiers qui existaient il y a un siècle et qui ont disparu. Donc, il y a une grande variabilité, une grande contingence culturelle, sociale, économique de la façon dont on organise collectivement le travail. Le problème, c'est que on n'a pas l'impression que ce sont des choix qui sont en notre pouvoir, finalement. On a l'impression que c'est un marché de l'emploi arbitraire qui dicte quelles sont ses offres à l'instant T selon ses propres besoins et non plus les besoins de la population et non plus d'après aussi des critères qui pourraient être des critères sociaux, écologiques, etc. En fait, dans le capitalisme, le marché de l'emploi, il est dicté par les impératifs du capitalisme, à savoir de production de valeur économique, de rentabilité et de profit. Et c'est pour cela qu'on a sur le marché de l'emploi un paquet de fonctions de production, qu'on pourrait dire la publicité, le marketing, les démarcheurs téléphoniques, qui ne visent qu'à nous faire consommer plus, qu'à nous faire finalement produire plus, et non pas à satisfaire des besoins sociaux. Donc, c'est important de discuter l'organisation actuelle du travail parce qu'elle n'a rien de naturel, qu'elle repose sur des choix d'après des normes, des valeurs, et qu'actuellement, ces choix sont faits par certains qui ont le pouvoir économique, le pouvoir financier. Et donc, c'est important de parler, de reprendre finalement la main sur ces discussions-là et sur ces activités-là aussi.
Dans le début de votre livre, vous dites à un moment donné « le travail est une activité existentielle ».
Alors c'est.
Et vous reprenez Gortz en disant ça, il me semble. Alors, ça veut dire quoi?
Je distingue trois types de conception du travail. Et le fait de considérer son emploi comme une activité qui nous définit existentiellement, qui fait notre identité, etc., ça c'est un de ces mythes qu'on attribue à l'emploi notamment, dans les sociétés capitalistes, et c'est un de ces mythes que je déconstruis. Mais d'accord. Il y a d'autres façons de considérer le travail et notamment l'emploi, soit de le considérer uniquement sous ce prisme de l'emploi, parfois le considérer aussi par une forme plus anthropologique comme une activité instrumentale qui satisfait nos besoins. Mais l'important, c'est de voir que quand on parle du travail, il y a différents niveaux de discours. Et donc, on ne parle pas toujours de la même chose. La plupart du temps, le ministère du Travail ne traite que de l'emploi, et non pas du travail domestique, et non pas du travail de la biodiversité, comme certains écologistes essayent de le mettre en avant, etc. Et donc, il faut à minima distinguer les discours et distinguer ce qu'on projette aussi sur les différents types d'activités qui rythment notre journée, finalement.
D'accord, d'accord. Alors justement, du coup, alors, essayons de comprendre de quoi on parle. Dans le livre, en fait, vous exposez plusieurs définitions du travail au long du livre, qui sont parfois implicites. Et puis vous finissez par donner un cadre, en fait, qui colle, pardon, avec l'idée d'une société frugale. Au final, quelle est la définition du travail que vous avez retenue ?
Alors, je pense qu'on peut distinguer deux types de définitions du travail qui sont opératoires. Sur le plan anthropologique, c'est l'activité que l'humain réalise collectivement pour satisfaire des besoins sociaux. Donc, ça veut dire que toutes les activités que vous réalisez à une échelle privée pour des besoins qui sont privés, et donc le moment où vous faites des pancakes pour le plaisir le matin, ou bien vous mettez à faire des tâches ludiques ou des choses comme ça, ces activités privées ne sont pas du travail. L'activité de travail, c'est l'activité de production qui vise à satisfaire des besoins sociaux avec des ressources collectives et à une échelle collective aussi. En revanche, cela implique donc que le travail est toujours une relation entre un agent qui fait l'activité et un autrui qui bénéficie de cette activité et voire qui explicitement la commandite dans certains cas. Et ça, c'est le cas pour la relation de l'emploi, mais c'est aussi le cas dans le travail domestique quand il y a finalement commande de certaines tâches pour faire fonctionner le foyer au quotidien. Et donc, je pense que mettre en avant les deux, ça montre que le travail, c'est une activité instrumentale. Donc, ça vise à satisfaire des besoins qui peuvent être finis. Donc, ce n'est pas une tâche infinie, c'est une tâche qui a un but. Et quand le but est atteint, on peut arrêter cette tâche. Et ensuite, comme c'est une tâche qui est toujours en relation avec autrui, c'est une tâche qui peut être soumise à des rapports de force. Et c'est donc une tâche qu'il faut aussi analyser pour ses conséquences sur le sujet et sur la société de ces rapports de force. Et ça, finalement, c'est ce que manque un peu une part de l'analyse quand on dit que le travail, c'est ce qui nous épanouit existentiellement, etc. Bah, on oublie un petit peu que le travail est toujours soumis finalement à la volonté d'autrui. Et que ce faisant, il n'est pas nécessairement entièrement libre, etc. Puisque c'est toujours, on se soumet à l'activité que la société a besoin qu'on réalise, ou bien qu'un tiers a besoin qu'on réalise.
Moi, de ce que j'ai compris dans ce que j'ai lu du livre, votre définition en fait du travail s'inscrit comme une nécessité dans un contexte écologique, dans un contexte qui est très lié à la crise du capitalisme. J'aimerais vous demander, de votre point de vue, comment vous décririez déjà ces crises, la crise écologique et la crise capitaliste, comment vous les avez compris quand vous avez écrit le livre, et en quoi est-ce qu'elles sont reliées à la question du travail?
Alors, sur ce sujet-là, donc, ma thèse porte sur la philosophie du travail et l'écologie politique d'André Gorz. C'est bien sûr toutes ces analyses aussi des crises du capitalisme qui m'inspirent beaucoup. Pour Gorz, la crise écologique du capitalisme, c'est une crise des conditions matérielles de reproduction du capital, à savoir le fait que le taux de profit ne peut plus se maintenir puisque les conditions matérielles de reproduction du capital, que ce soit les matières premières, sont finies, alors que le capitalisme présuppose et désire une production infinie. Donc il y a la contradiction première finalement du capitalisme, c'est la contradiction matérielle. Les matériaux auxquels il fait appel, que ce soit des matières premières, que ce soit des matériaux de production ou que ce soit des ressources énergétiques qui entrent dans le circuit de production. C'est aussi sa capacité à traiter sa production matérielle, à savoir ses déchets, à savoir ce qui est engendré par cette production. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'un aspect sur lequel Gors n'avait pas assez insisté et qui est plus lié à la crise climatique, parce qu'il y a différentes étapes dans la prise de conscience écologique, et finalement le réchauffement climatique, c'était moins pris en compte, moins évident dans les années 70-80 dans lesquelles Gors élabore son écologie politique, c'est les conséquences de la crise climatique sur nos propres corps, en fait, nos corps humains. À savoir, ça c'est par exemple le directeur de l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, qui dit que la crise climatique, c'est d'abord une crise sanitaire. Ça veut dire une crise pour nos corps qui ne vont plus être capables d'agir de la même façon, de se reposer de la même façon. Et on peut tout à fait considérer, donc il y a des économistes de la santé, par exemple Éloi Laurent, qui travaillent là-dessus, et qui disent que on ne peut pas présupposer que la production d'un travailleur né dans les années 70 et qui n'aura connu que quelques canicules dans sa vie et donc quelques étés où son corps n'aura pas pu récupérer de la même façon seront les mêmes capacités productives que quelqu'un qui est né en 2020 et qui connaîtra des étés de canicule toute sa vie. Nous n'aurons pas les mêmes capacités productives. On ne peut pas présupposer que nos corps seront capables de produire autant, aussi bien en termes de durée que d'intensité de l'effort. Et donc, c'est encore plus aberrant de croire qu'on va pouvoir travailler plus. On voit vraiment, en fait, les limites corporelles, en fait, de cette injonction à travailler plus, qu'on retrouve en termes d'envisager l'augmentation de la durée du travail, que ce soit à l'échelle hebdomadaire ou à l'échelle de la vie, avec le report de l'âge de départ à la retraite. En fait, nos corps ne vont pas tenir. Nos corps aujourd'hui ne sont plus dans les mêmes conditions qu'un corps né en 1900, qu'un corps né en 1950, etc. Il y a aussi bien les conditions climatiques que les conséquences aussi de l'alimentation industrielle, du mode de vie industriel, etc., qui perturbent nos corps. Et ça, on voit déjà les effets des perturbateurs endocriniens sur la fertilité, sur le développement des organes, du cerveau, etc. Donc la crise écologique, c'est aussi une crise de nos corps et donc, en fait, de notre support de travail, hein, si on le lit comme ça. Donc, on ne peut pas présupposer que le travail ne va pas changer. Et ça, je pense que c'est vraiment un angle mort de la réflexion économique et de la réflexion sur le travail. Quand vous lisez, par exemple, le rapport du CORE, donc le comité là, sur la retraite, pas un moment, il n'envisage la question du climat. Et donc, en fait, on fait des présuppositions, on fait des projections, de façon abstraite, en présupposant que tout va continuer comme avant, finalement.
Et oui, que l'on travaille ou pas, l'heure tourne. Et c'est déjà l'heure de se séparer. On se retrouve le mois prochain sur Radio Escapade avec plein de nouvelles infos, l'occasion de parcourir d'ici là le dernier mag Altermidi disponible en kiosque. Merci à Siam pour la prise de son. Et un bel automne à vous toutes et tous, plein de couleurs et de champignons.